Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute.
Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Il la plaça au milieu de la foule et dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit : Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ? Elle répondit : Personne, Seigneur. Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Une fois de plus, les spécialistes de la loi et les pharisiens tendent un piège à Jésus en l'amenant cette fois-ci sur le terrain de la législation. Non seulement ils vont éprouver sa bienveillance divine, mais ils vont mettre en jeu la vie d'une personne pour le piéger. Les accusateurs de la femme adultère savent bien que la loi de Moïse ne s'accorde pas toujours avec le jugement divin de Jésus. Mais lui, pour sauver la femme d'une mort certaine, va tout bonnement les contre-interroger en utilisant, comme eux, la loi de Moïse. Lorsqu'il leur rétorque que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, la femme accusée a dû se faire du souci en entendant cette contre-attaque très risquée pour elle. Mais pour Jésus, c'est tout le contraire. Il n'est pas inquiet. Car en fait, il maîtrise et contrôle parfaitement la situation. Pour comprendre la finesse de sa ruse, il faut remonter au temps où Dieu a inscrit sur des tables en pierre ses commandements, et notamment le septième qui marque le respect de la personne envers l'union conjugale. Tu ne commettras pas d'adultère. Comme si cette directive divine ne suffisait pas pour que son peuple mène une vie sainte, Dieu a jugé bon d'inspirer Moïse sur les sanctions à prendre en cas de désobéissance à sa volonté. La sanction rapportée par Moïse contre l'adultère est impitoyable. Elle demande de punir de mort ceux qui sont reconnus coupables d'adultère. Mais voilà. En laissant la femme seule se faire juger, les spécialistes de la loi et les pharisiens vont à l'encontre de la loi de Moïse qui veut que l'homme et la femme soient tous deux punis de mort en cas d'adultère. Si un des accusateurs ose vanter d'être sans péché pour jeter la première pierre, Jésus pourra utiliser contre lui le fait qu'il a désobéi à la loi de Moïse en ne faisant pas juger l'homme avec la femme. Voilà comment Jésus contrôle la situation devant ceux qui lui tendent un piège. Il est intéressant maintenant de voir la progression du septième commandement pour y découvrir la volonté de Dieu. Au mont Sinaï, Dieu parle et donne ses commandements. Il grave avec son doigt sur une table ses commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Puis, Moïse, se sentant inspiré par Dieu, donne la sanction à prendre en cas de désobéissance. Au fil de l'histoire d'Israël, la loi de Moïse a été déformée et mal employée par les chefs religieux qui en avaient fait une masse confuse de règles. Alors il n'est pas surprenant que la mort par lapidation soit devenue la sentence contre l'adultère. Mais Jésus va rétablir la justice et la vérité en donnant la vraie pensée divine, qui est que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La vérité est venue à travers Jésus-Christ. Et il déclare qu'un simple désir charnel avec quelqu'un d'autre que son conjoint est déjà un adultère en pensée. Et donc, un péché. La grâce est venue aussi à travers Jésus-Christ. Et avec lui, la désobéissance ne conduit pas à la mort physique, mais à la mort du péché par la repentance. Avec lui, notre désobéissance est sanctionnée par un appel à changer de vie. Et pour la femme adultère, Jésus va l'exprimer ainsi. Va, et désormais ne pêche plus. Pour finir ce passage, nous pouvons comprendre que la désobéissance à Dieu qui mène au péché est sanctionnée par une correction qui nous encourage à changer de vie. Voilà la volonté du Père transmise par Jésus-Christ. Dans la Bible, le septième commandement qui demande de ne pas commettre l'adultère a aussi une portée spirituelle qui peut désigner notre infidélité à l'égard de Dieu. Par ailleurs, et comme il l'a déjà dit à ses concitoyens, Jésus pourrait nous taxer aussi de génération adultère lorsque, par exemple, nous idolâtrons l'argent ou toute chose qui pourrait être assimilée à d'autres dieux. Lorsque notre amour pour le monde est plus grand que celui que nous amons pour Dieu. Lorsque nous nous orientons vers d'autres spiritualités. Lorsque nous faisons de l'occultisme et bien d'autres choses encore. Ce texte ne s'arrête pas à montrer que notre désobéissance est sanctionnée par une correction qui nous encourage à changer de vie. Car il parle aussi de la conception du pardon. Ce qui m'a le plus frappé dans ce texte, c'est Jésus qui reste seul, accroupi devant la femme adultère, sans rien dire. C'est l'image de la sainteté, désolée par le péché, qui se courbe. Mais en se redressant, elle déploie sa toute-puissance face au prince de ce monde qui nous soumet au mal. Cette femme est probablement juive, voire étrangère, mais d'aucune façon elle ne semble être une disciple de Jésus. Si Jésus ne lui dit pas qu'elle est pardonnée, c'est parce qu'elle n'a pas dit le mot qui lui offrirait la rémission de son péché. Sans nul doute qu'il est attristé par l'acte défendu de cette femme, et encore plus par son attitude à attendre la peine capitale sans chercher à s'excuser de sa faute. Sa bienveillance fait qu'il ne se fâche pas contre elle. Et c'est dans la seule intention qu'elle change d'attitude qu'il la renvoie en disant « Va, et désormais ne pêche plus ». Cette parole d'envoi concrétise ce qu'il disait dans l'évangile de Marc. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Je pense ne pas me tromper si je dis que nous avons vécu plusieurs fois ce genre de situation. Étant tantôt dans la sainteté, tantôt pécheurs. Dans nos relations avec les autres, il nous arrive d'être l'offenseur et l'offensé. Nous pouvons être offensés par une remarque blessante ou des paroles désobligeantes, par l'attitude de quelqu'un qui nous déçoit, et bien d'autres choses encore. Tant et si bien qu'il nous arrive d'être fâchés au point de vouloir couper les liens avec celui qui nous a blessés. Mais parfois la blessure est si grande qu'on se met à haïr l'autre. Ça peut même nous pousser à lui vouloir du mal. Dans ces cas extrêmes, nous sommes si abattus que pardonner devient quelque chose d'impossible. Dans ces moments difficiles, il est bon de prier pour ne pas succomber à la tentation de rompre la relation. Il faut s'en remettre au Saint-Esprit pour qu'il fasse mûrir en nous le fruit de l'indulgence et du pardon. Lorsque Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Il lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Pour notre délivrance, Jésus veut qu'on accorde sans condition le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est pour ça que dans sa prière de Notre Père, il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais nous avons aussi la faculté et le pouvoir d'être des offenseurs. Nous pouvons l'être par méchanceté ou indiscipline, en réaction à une attaque verbale, par déception ou inadvertance, en persécutant une personne fragile ou en étant soi-même le harceleur d'un bouc émissaire, et par bien d'autres façons encore. Lorsque nous offensons quelqu'un et qu'on se rend compte qu'on l'a blessé, qu'on ait tort ou raison, on a le don pour camper sur nos positions. Notre nature contrarie notre bon sens qui, lui, veut que nous demandions pardon. Pour l'être humain, demander pardon, c'est comme perdre la face et se dévaloriser. Or, ne pas demander pardon est une vraie infirmité qui nous enferme dans la rancœur et qui nuit aux bonnes relations humaines. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, disait ceci. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Se repentir, c'est demander pardon pour un péché, une mauvaise action, un geste déplacé, une pensée malveillante ou une parole malvenue que l'on regrette d'avoir fait ou dit. Demander pardon à celui qu'on a offensé, c'est aimer son prochain et lui éviter qu'il ne s'enlise dans la rancœur et l'amertume. Mais c'est aussi un geste d'amour qui est agréable à Dieu et pour lequel il ne manquera pas de nous glorifier au moment venu. Voici quelques passages bibliques qui disent que ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ ou qui se repentent de leurs péchés sont pardonnés. À la femme pécheresse qui lui versa du parfum sur les pieds, il dit « Tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. » À Corneille et à ses invités, l'apôtre Pierre dit « Tous les prophètes rendent de Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. » Dans notre texte et dans toutes ses versions, Jésus ne dit pas à la femme adultère que son péché lui est pardonné, comme il le dit à la femme pécheresse, par exemple. Par contre, il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais désormais ne pêche plus. » Ne pas condamner ne veut pas dire pardonner. Dieu pardonne à ceux qui se repentent de leurs péchés, et Jésus pardonne leurs péchés à ceux qui croient en lui. Jésus va non seulement sauver cette femme adultère de la mort physique, mais il va aussi, en lui ordonnant de ne plus pécher, tenter de la sauver de la mort spirituelle. Si en lui obéissant, elle ne pêche plus, sûr qu'au dernier jour, elle sera pardonnée et sauvée. Nous qui croyons et qui avons la foi, nous n'avons rien à craindre. Quand bien même nous ne demandons pas pardon ou que nous ne pardonnons pas, nous sommes assurés d'être sauvés. Mais est-ce qu'il plairait à Dieu qu'on ne veuille pas se repentir? Pas sûr. C'est peut-être pour ça que le Christ nous a donné le Saint-Esprit, pour qu'il soit non seulement notre avocat, mais pour qu'il nous aide à pardonner sans condition préalable. Et pardonner sans contrepartie, ne serait-ce pas recevoir la grâce de Dieu dans l'instant? Vous aurez sans doute compris qu'il n'y a pas que pardonner à celui qui nous a offensés, qui est source de grâce, mais aussi la repentance. Dans notre histoire, si la femme adultère s'était repentie de sa faute, bien sûr qu'elle aurait reçu la grâce du pardon de Jésus-Christ. Demander pardon, c'est se repentir d'un péché. Et pardonner, c'est rétablir une relation rompue. Pour conclure, frères et sœurs, je dirais que demander pardon comme pardonner demande du courage. Mais chaque fois que nous le faisons, nous recevons de Dieu une bénédiction. Lorsque l'apôtre Paul nous rappelle ceci dans sa lettre aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et pour terminer, nous prions avec le texte de l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir choisis. Tu nous dis saints parce que nous sommes tes bien-aimés et que tu nous as mis à part dans le monde. Revêt-nous de l'amour qui est le lien de la perfection et que notre attitude soit toujours animée par des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. À l'aide du Saint-Esprit, fais que nous puissions nous supporter les uns les autres et nous pardonner réciproquement, tout comme Christ a pardonné. Que la paix de Christ règne dans notre cœur et que sa parole habite en nous dans toute sa richesse. Et quoi que nous fassions, en parole ou en acte, c'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons le faire. Amen.